Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck, un entrepreneur depuis très longtemps qui a eu la chance et surtout le mérite de monter plusieurs boîtes aussi différentes les unes que les autres. Depuis son plus jeune âge, il est attiré par l'entrepreneuriat et la création. Il est passé dans des boîtes qui ont connu des croissances énormes comme Ubisoft par exemple. Et il a surtout eu la chance de participer à cette croissance. Alors cette discussion avec Franck risque fortement de vous intéresser si le monde de la start-up ou de l'entrepreneuriat en général vous intéresse. Donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant un avis sur Apple Podcast. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Franck. Bonjour Franck, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Sans plus attendre, comme je fais d'habitude avec mes invités, ce que je te propose, c'est de te présenter en quelques lignes, de nous expliquer comment toi, tu te définirais en quelques lignes.
Bonjour Quentin, alors c'est pas facile. Je suis un perfectionniste pragmatique et un serial entrepreneur.
Top. Effectivement, c'est pas le genre de description qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est intéressant parce que tu ne te définis pas. Alors, on va en reparler par la suite, mais tu as fait de nombreuses activités, tu as monté plusieurs boîtes, tu as fait plein de choses dans ta vie. Et pourtant, tu ne te définis pas avec l'une de ces activités, à travers l'une de ces activités. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, pourquoi perfectionniste et pourquoi serial entrepreneur selon toi ?
Bah en fait, alors la volonté d'entreprendre et de créer, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. J'aime bien me coucher le soir en me disant, tiens, ce truc-là, il n'existait pas ce matin. Enfin, toi, plutôt que de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai fait quoi ? J'ai passé des coups de fil. Bon. Donc, il y a ce côté création. Et puis, en tant que chef d'entreprise, bah, finalement, tu es très libre de bousculer un peu les conventions, de repartir de la page blanche, de te faire ta propre expérience, de te planter, de rebondir, d'essayer des trucs, de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Enfin, ça me convient bien, alors, heureusement, hein, parce que ça fait assez longtemps que je fais ça, mais voilà, de créer des entreprises, c'est une façon d'essayer, d'explorer et puis de se construire quelque chose un peu sur mesure, quoi.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sent que t'es plutôt parti de ta personnalité et ensuite t'as essayé de construire un ou plusieurs jobs, mais en tout cas quelque chose qui te fasse vivre basé sur ta personnalité et sur ce qui t'intéressait le plus, quoi.
Ouais, alors ça marche dans les deux sens, hein, ça s'est construit au fur et à mesure, mais moi je suis tombé dans le logiciel quand j'étais tout petit, parce que mon père a ramené un ordinateur à la maison quand j'avais 10 ans, et c'était 2 ans avant que l'IBM PC ne sorte, c'était vraiment la préhistoire de l'informatique, hein, j'ai 51 ans. Et cet ordinateur, il avait un gros défaut, c'est qu'il n'y avait aucun logiciel dessus, donc je me suis mis à programmer cet ordinateur pour pouvoir en fait m'en servir. Et puis à cet âge-là, bah, ce qui m'intéressait le plus, c'était les jeux vidéo, donc je me suis mis à programmer des jeux vidéo pour pouvoir jouer avec cet ordinateur, quoi. Donc tout a commencé comme ça. L'informatique, c'est pas un hasard non plus, enfin mon père faisait de l'informatique, mais c'est une logique qui me convient bien, c'est des choses qui me viennent assez naturellement. La programmation, c'est beaucoup décomposer des gros problèmes en petits problèmes, puisque en fait les gros problèmes, la machine sait pas les résoudre, et les petits problèmes, elle sait les résoudre. Et ça, c'est un genre de, je sais pas, d'esprit de synthèse. C'est quelque chose que je fais très spontanément, très naturellement, donc je crois que j'ai trouvé ma voie, j'ai eu la chance de trouver ma voie très très tôt. On est tous doués pour quelque chose, mais des fois on peut errer pendant un certain nombre d'années avant de trouver. Donc l'informatique, c'était une évidence, et puis l'entrepreneuriat, c'est venu plus tard, mais c'est un prolongement de ce côté un peu innovant, créateur, créatif que le numérique permet de faire. Donc j'ai commencé dans les jeux vidéo je me suis retrouvé au tout début d'Ubisoft, donc j'ai développé les premiers jeux vidéo d'Ubisoft. Et puis plus tard, j'ai été en alternance salarié et puis fondateur de mes propres entreprises. J'ai connu des phases, alors bon, Ubisoft, ils sont devenus très très gros. Et puis j'ai été aussi à un moment au démarrage de Business Objects, qui est une entreprise qui est aussi devenue très très grosse très très vite. Et c'est intéressant de voir tous ces aspects-là, parce qu'en fait ça génère des problèmes, mais des bons problèmes. C'est-à-dire que de grossir très vite, c'est très compliqué. Mais finalement, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à une entreprise. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Et souvent, ça se passe beaucoup aux États-Unis, parce que ben, les licornes ou les entreprises à forte croissance, elles sont plus elles démarrent souvent là-bas. Et voilà, j'ai aussi eu la chance de travailler beaucoup à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Et ça donne des perspectives différentes aussi, quoi.
Ouais, tout à fait. Et on va revenir sur ces différentes activités. Et à quel moment t'as... Parce que c'est vrai que là, tu nous as fait comprendre que t'es tombé dans l'informatique. Et ensuite, parce que je suppose que... Alors, je sais pas à quel âge t'es tombé dedans, mais je suppose qu'à cette époque-là, t'avais pas encore conscience de ton attrait pour la création, que t'avais pas conscientisé, en fait, tout ça. Et à quel moment tu t'es dit, ah bah tiens, l'entrepreneuriat, ça me convient. Est-ce que, justement, c'était pendant tes études, ou est-ce que t'as eu des réorientations, ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement ?
Non, je crois que assez tôt, j'avais conscience que de créer une entreprise, ça offrait plus de possibilités, plus de liberté, très très jeune. Et je crois que l'informatique, ça a surtout libéré ma créativité, parce que il y avait plus d'obstacles matériels. C'est-à-dire que avant, alors j'ai commencé quand j'avais 10 ans, hein, donc avant j'ai pas fait grand chose, mais je veux dire, je construisais des trains électriques, je faisais un petit peu d'électronique, enfin voilà, je faisais des choses matérielles. Et ça avait beaucoup plus de conséquences quand on se trompait, ou enfin en électronique on a vite fait de griller un composant, ou enfin voilà. Et l'informatique, il y a ce côté virtuel où en fait c'est de la création pure, parce que on n'a aucun obstacle matériel, on construit des abstractions logiques, et au pire ça marche pas, quoi. Et si ça marche pas, on recommence. Et puis aussi le fait qu'on puisse, alors après j'ai fait des études j'ai fait des études d'ingénieur en microélectronique, c'est pas très éloigné, mais à l'époque quand j'ai commencé, j'étais forcément autodidacte, et l'informatique donne cette possibilité-là, c'est-à-dire que l'ordinateur c'est un peu un miroir, et on voit tout de suite ce qui marche, ce qui marche pas, et donc c'est un des rares domaines où on peut être très compétent et complètement autodidacte. Voilà, un neurochirurgien autodidacte, c'est pas idéal. Enfin, faut s'entraîner sur son chat, sa petite sœur. Ou... Bon, voilà, un programmeur autodidacte, c'est pas tellement un problème, parce que, alors, je dis pas, j'ai fondé une école plus récemment, donc je suis pas là pour dire que c'est mieux d'apprendre tout seul, mais c'est possible. Donc, c'est un domaine où on peut se former, et finalement, la machine est à la fois le professeur et l'outil qui permet de progresser. Donc ça, c'est clairement une chance qui est offerte par cette discipline-là.
Ouais, carrément. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette transition entre tes études et ton premier emploi ? Tu nous as notamment fait comprendre que grâce plus ou moins à tes premiers projets aux petits jeux vidéo que tu bricolais dans un premier temps, voilà, dans ta chambre, on a vraiment ce stéréotype qui, au final, est vrai dans certains cas, de l'ado, de l'enfant qui bricole dans son coin et qui commence à partager un peu ses créations, et qui, justement, enfin voilà, ses créations qui lui permettent de lui ouvrir des portes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette période-là de ta vie ?
Ouais, bah, alors, effectivement, ça, c'est pas très loin de ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que quand j'avais 10 ans, mes jeux, ils étaient un peu pas terribles. Progressivement, ça, c'est devenu un peu plus sophistiqué. Je crois que les premiers ont été commercialisés quand j'avais 16 ans. Donc déjà un peu ce côté entrepreneurial, mais d'être mineur et d'avoir une activité professionnelle, c'est extrêmement compliqué, puisqu'il faut l'autorisation de ses parents pour faire tout et n'importe quoi, dès qu'il faut signer un chèque ou faire une démarche, ou voilà. Donc mes premiers jeux ont été commercialisés quand j'avais 16 ans, donc ça c'était avant Ubisoft, et puis après il y a eu le démarrage d'Ubisoft, donc je me suis retrouvé à développer leur premier jeu. Alors j'étais indépendant d'Ubisoft, et puis en parallèle de ça j'ai fait mes études d'ingénieur, et j'ai arrêté à peu près en même temps, hein. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter de faire des jeux vidéo dans les années 91-92, par là, à peu près au moment où j'ai fini mes études. Ça n'a pas de rapport avec les études, c'est juste que je trouvais que j'avais un peu fait le tour du monde des jeux vidéo, et que c'était une industrie finalement assez immature où il y avait. C'est le problème des industries très très glamour, tout le monde veut bosser dans ce domaine-là, donc il y a un afflux massif de gens tout le temps, et il y a beaucoup d'amateurisme, il y a beaucoup de stagiaires, il y a beaucoup de gens qui ont peu d'expérience, et on a tendance toujours à réinventer la roue. Alors je ne sais pas exactement comment. Aujourd'hui, c'est un marché qui est plus gros que l'industrie du film. Je pense que ça s'est professionnalisé, structuré. Voilà. Mais à l'époque, c'était vraiment du bricolage. Et j'avais envie de faire de l'informatique un peu plus sérieuse. Donc j'ai rejoint une filiale de LVMH où là, j'ai fait. À l'opposé, j'ai fait de la propriété industrielle, donc j'ai fait de la. Alors, un peu des brevets et puis surtout de la surveillance de marque. Où on regardait toutes les semaines si un petit malin n'avait pas déposé un parfum qui s'appelait numéro 9, ou enfin voilà, on surveillait les marques du groupe LVMH. Donc ça, c'était vraiment très différent, et je me suis rendu compte assez vite que finalement, il y avait de l'informatique très intéressante dans tous les domaines, quoi. C'est pas lié au secteur d'activité, il y a du logiciel absolument partout, c'était déjà un peu vrai à l'époque, c'est encore plus vrai maintenant. Et il y a toujours moyen de trouver des choses intéressantes à faire, quel que soit le sujet d'application. Et donc la propriété industrielle, ça m'a intéressé autant que les jeux vidéo pour d'autres raisons. Après, j'ai fait des logiciels de retouche d'image, j'ai fait des choses dans la finance, j'ai fait de la traçabilité dans le champagne, enfin voilà, des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et ça fait partie des attraits de ce domaine, c'est qu'on peut assez facilement passer d'un sujet à un autre. Le fil conducteur étant sa compétence technique sur la programmation, parce qu'évidemment il faut une certaine compétence pour avoir une valeur ajoutée, mais ça oblige aussi à apprendre le métier de l'autre, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, de jargon, et puis de se mettre à la place du client ou de l'utilisateur. Donc ça, je trouve que c'est un exercice intéressant parce que c'est très varié forcément. Et puis on apprend plein de choses. Enfin, avant de travailler sur le champagne, j'avais aucune idée de la façon dont le champagne s'était fabriqué. Et voilà. Et maintenant, je sais comment on fait du champagne. Voilà, c'est vrai c'est vrai de l'industrie pharmaceutique. C'est vrai de tous les domaines, la finance, à tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé. À chaque fois, j'ai appris des choses bien au-delà de la technique. J'ai appris des choses, des compétences métiers, et je trouve ça intéressant.
Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, comme tu dis, dans le domaine de l'informatique et tout ce qu'il y a autour, c'est que c'est avant tout un outil, en fait. C'est un outil et un outil dont on peut se servir dans énormément de domaines, comme tu viens de nous le dire. Et c'est aussi un moyen d'aligner passion et métier, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de faire un métier qui le passionne, mais l'informatique, même si c'est pas forcément l'informatique en soi qui nous passionne, c'est ce que ça nous permet de créer et ça peut être appliqué dans pas mal de domaines, quoi.
Non, la vie est trop courte pour faire un métier qui ne nous passionne pas. Donc, les gens qui sont dans un métier qui ne les passionne pas, il faut d'urgence qu'ils se remettent en question et qu'ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire d'autre. Parce que franchement, ça change tout, hein. Enfin, je pense que dès qu'on est passionné, on est presque automatiquement compétent. Et les journées passent très vite. Et je trouve que c'est vraiment dommage de s'acharner dans un domaine qui n'est pas le sien, quoi.
Ouais, bien sûr. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est ce contraste en fait entre le profil entrepreneur qu'on qualifie, enfin qu'on remarque souvent qu'un profil entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime bien coller des morceaux, bricoler un petit peu pour créer un petit site web, pour le faire grossir ensuite, mais c'est quelqu'un qui est assez bricoleur et qui est un peu limite, on va dire, sur les protocoles, sur le fait de créer quelque chose de propre, de bien structuré. Et on voit effectivement que c'est quelque chose dont tu avais besoin, de la structure, de faire quelque chose d'un peu plus organisé. Et c'est étonnant en fait que malgré le fait que à tes 16 ans, tu sois déjà un entrepreneur dans le sens où tu créais des jeux vidéo de ton côté et tu commençais déjà à les commercialiser, et pourtant, à la fin de tes études, tu as rejoint des groupes qui sont quand même, pour certains, l'opposé de l'entrepreneuriat, dans le sens où ce sont des grands groupes. Donc, pourquoi cet attrait justement pour le salariat, pour des grands groupes, alors que tu étais plus parti, d'après ce qu'on pourrait croire, d'après ce qu'on pourrait constater, pour un profil un peu plus start-up, entre guillemets?
J'oppose pas les deux, enfin j'apprécie les deux. Alors je suis plus à l'aise dans une boîte de moins de 50 salariés que dans une boîte de 50 000 salariés, mais il y a des choses à apprendre partout, et c'est intéressant d'apprendre des erreurs des autres plutôt que de refaire les siennes tout le temps. Donc quand on quand on rejoint des structures existantes ou des structures en forte croissance qui sont en train de se constituer, bah on n'apprend pas les mêmes choses, on n'est pas confronté aux mêmes problèmes que quand on est dans sa propre structure. Moi, les boîtes que j'ai créées, elles n'ont jamais dépassé une cinquantaine de personnes. Alors aussi par souhait, hein, parce qu'au-delà, ça m'intéresse moins. Et donc j'ai vendu ou j'ai fait autre chose. Mais on n'a pas les mêmes problèmes de 0 à 50 et de 50 à 5000, quoi. Et d'avoir vu ce qui se passe de 50 à 5000, c'est très enrichissant aussi parce que ça permet de relativiser, de mettre les choses en perspective et de se rendre compte que finalement, c'est toute une question de timing. Il faut du process, mais il faut pas trop de process et il faut pas du process prématuré en avance de phase. Enfin voilà, c'est-à-dire que il faut se structurer au rythme qui convient à la croissance de la structure, de l'entreprise. Et si on le fait trop tard, c'est un peu chaotique et il y a un risque d'implosion en vol. Et si on le fait trop tôt, c'est sclérosant et ça ralentit. Donc le dosage n'est pas facile. Et entre le court terme et le moyen terme, c'est toujours un peu une opposition, hein. Les décisions qui sont pertinentes à court terme, elles sont souvent contre-productives à moyen terme et inversement. Donc ça, je trouve ça très intéressant de voir ça, de voir autre chose et de voir des structures beaucoup plus grosses. Et puis finalement, de confirmer que ça me convient moins. C'est-à-dire que sur le papier, j'avais pas la preuve que ça me convenait moins. J'ai une. Je vais pas citer de nom, hein, mais j'ai travaillé dans une entreprise centenaire. Et un jour, je devais aller à Londres en déplacement. Et on n'arrêtait pas de me demander, oui, mais tu vas en train ou en avion? Et je voyais pas le problème. Et je lui dis, ça dépend des horaires, ça dépend de ce qui est pratique. Je n'ai pas décidé encore, je vais voir. Non, non, mais tu vas en train ou en avion? Franchement, je ne comprenais pas pourquoi c'était un sujet. Et j'ai fini par comprendre que, en fait, la seule personne dans l'entreprise, donc plusieurs centaines de salariés, la seule personne dans l'entreprise habilitée à prendre des billets d'avion était la secrétaire de direction, parce que dans les années 70, il n'y a que le président qui prenait l'avion, et donc c'était resté comme ça depuis les années 70. Donc de savoir si on allait à Londres en train ou en avion, c'était ultra déterminant parce que ça changeait complètement le circuit de réservation du billet, quoi. Donc voilà, ce jour-là, j'ai donné ma démission. Je suis allé voir ailleurs. Mais voilà, dans les grosses structures, il y a des process qui sont justifiés, nécessaires, et puis il y a des process qui sont historiques, qui sont là pour des mauvaises raisons, parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc c'est super important de se reposer sans arrêt la question et de remettre en cause les process existants, parce que ils peuvent avoir été très adaptés à une période donnée et plus du tout adaptés à un autre moment, parce que l'environnement change en permanence, et une entreprise, c'est jamais en vase clos. Enfin, il y a forcément toutes les interactions avec le monde extérieur. Donc le danger, c'est de rentrer dans une routine et de faire la même chose tout le temps, juste parce qu'on a l'habitude de faire comme ça. Donc de travailler pour des grands groupes, c'est aussi très enrichissant parce que on est exposé à des problématiques très différentes, à des choses qui se font à d'autres échelles. Alors, on a un intervenant chez Algosup qui enseigne. Alors, je n'ai pas parlé d'Algosup encore, donc c'est l'école de développement logiciel que j'ai créée récemment. On aura l'occasion d'en parler. On a un intervenant, il donne des cours de gestion de projet. Et il disait qu'il avait géré un projet en Australie pour 30 milliards. Donc je ne savais même pas qu'il y avait des projets à 30 milliards. Voilà. Donc il y a des choses dans des grands groupes qu'on fait et qu'on n'aura jamais l'occasion de faire ailleurs. Et puis il y a une liberté d'action et une rapidité dans une start-up qu'on ne retrouvera pas dans des grands groupes. Donc il faut que chacun trouve sa place et on n'est pas obligé d'avoir envie de la même chose à tous les moments de sa vie. Enfin, on peut avoir envie de démarrer dans un gros groupe et puis de créer sa boîte après, ou l'inverse. Moi, je suis toujours un tout petit peu sceptique. Alors, j'accompagne pas mal de créateurs d'entreprises, de jeunes qui ont le statut étudiant entrepreneur, etc. Je suis souvent dans des jurys ou des choses comme ça. De créer sa boîte en sortant de ses études, ça me paraît toujours un peu risqué parce que finalement, on a très peu d'expérience. Et on va faire des erreurs, on va acquérir de l'expérience en essayant des trucs et puis en pivotant, en rebondissant, en changeant. Les erreurs, autant les faire chez les autres. Enfin, je pense qu'en début de carrière, c'est pas mal d'être salarié et puis de créer sa boîte plus tard, une fois qu'on a vu ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas, les erreurs à pas refaire, enfin voilà. Mais après, il n'y a pas de règle, hein, tous les modèles. Enfin, je veux dire, il y a des tas d'exemples et de contre-exemples, il y a toutes les situations sont possibles.
Ouais, bien sûr. Et donc effectivement, toi, ton objectif en sortant d'école, c'était déjà d'acquérir un maximum de connaissances pour ensuite lancer ta start-up, c'est ça?
Bah en fait, donc, bon, ma toute première activité professionnelle, entre guillemets, c'était de la création d'entreprise. Enfin, c'était, on avait un studio de création logicielle et nos jeux étaient édités par Ubisoft. Donc, on était indépendant d'Ubisoft. Mais ça s'est trouvé comme ça. Après, j'ai été salarié un certain temps. Et puis, à un moment, j'ai eu l'idée d'un brevet pour corriger le problème des liens cassés sur Internet. Donc ça, c'était en 97, 98. Et à l'époque, il y avait un lien sur Internet, sa durée de vie, c'était 42 jours. Donc, en gros, tous les 42 jours, les liens sur Internet étaient cassés. Et donc, c'était très frustrant. Il arrivait très régulièrement qu'on clique sur un lien et qu'on récupère une erreur 404, page not found. Et donc, j'ai trouvé une solution technique pour résoudre ce problème-là. Et puis, comme j'avais travaillé dans les brevets avant, je savais que ça pouvait être brevetable. Et donc, j'ai décidé de breveter cette invention. Et rapidement, financièrement, c'est devenu compliqué parce qu'un brevet, ça coûte cher. Au début, ça coûte cher pour un pays. Et puis, à un moment, il faut l'étendre aux autres pays et on multiplie les coûts par le nombre de pays dans lesquels on veut le protéger. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Soit je laisse tomber l'idée, soit je m'en donne les moyens. Et donc là, j'ai recréé une entreprise. Je suis d'ailleurs parti en Angleterre parce que je trouvais que... Alors, à l'époque, je passais beaucoup de temps aux États-Unis, donc... J'avais imaginé peut-être créer l'entreprise aux États-Unis et je trouvais que les États-Unis c'était compliqué à certains égards. Il n'y a pas les mêmes défauts que la France, mais il y a une certaine complexité aussi. Et je me disais, tiens, peut-être que l'Angleterre c'est un compromis intéressant. C'était avant le Brexit évidemment. Et ça permet d'embaucher des gens qui viennent de partout en Europe sans aucune formalité. Et puis on a quand même des passerelles, on a la langue, on a des passerelles vers les États-Unis. Donc je suis parti en Angleterre pour créer Lingard en tout début. 99. Et puis plus tard, c'était à base de capital risque, hein, j'ai levé l'équivalent d'aujourd'hui d'une quinzaine de millions d'euros en 5 tours de financement, et puis grossi assez vite, ouvert une filiale aux États-Unis, etc. Mais voilà, c'est le timing qui s'est imposé à moi, je m'étais pas dit, tiens. En 99, je vais créer une boîte, quoi. C'est juste que j'avais cette idée, je voulais pas passer à côté. Le timing était bon. À côté de ça, chez Business Objects, où j'étais à ce moment-là, je faisais des choses super intéressantes et j'ai appris énormément, justement dans des phases d'hypercroissance. Business Objects, c'était la première entreprise européenne à être cotée au Nasdaq. Le Nasdaq, c'est la bourse de technologie aux États-Unis. Et donc, c'est une entreprise qui a été revendu à SAP, donc est le leader européen des logiciels, qui est la plus grosse capitalisation boursière allemande, et ça a été revendu à SAP pour, je ne sais plus, 3 milliards ou quelque chose comme ça, quelque chose comme 15 ans après le démarrage de l'entreprise, quoi. Donc c'est vraiment des phases d'hypercroissance, et j'ai appris beaucoup plus de choses que dans ma structure à moi, enfin pas les mêmes, mais voilà. Donc, et puis plus tard, du coup, quand j'ai vendu ma structure, je me suis retrouvé avec un peu de temps, un peu de moyens. Donc à l'époque, on habitait à moitié à Londres, à moitié à San Francisco. Ma femme travaillait à Londres. On s'est dit, tiens, on pourrait voyager. Donc elle a demandé à son employeur un congé sans solde de 3 mois. Son employeur a dit non, donc elle a démissionné. Et donc on est parti 2 ans. Donc on a passé 6 mois en Australie, 6 mois en Inde, 6 mois en Amérique du Sud, 6 mois en Afrique. Et puis aux 3/4 du voyage, on s'est quand même posé la question de ce qu'on allait faire après. Et on a cherché un endroit où habiter et on a hésité. On s'est dit que Sydney c'était sympa, Buenos Aires c'était pas mal, Bombay c'était intéressant et pourquoi pas Bourges. Et en fait, c'est la maison des arrière-grands-parents de ma femme qui était là et qui tombait en ruine. On n'avait nulle part où aller, on s'est dit on va se poser là, on va retaper la maison et puis après on repartira à l'étranger. Et en fait, voilà, notre voyage s'est fini en décembre 2003 et on est toujours là parce qu'on se plaît et on a pris l'habitude d'avoir de la place, d'avoir une certaine qualité de vie. On a mis des ruches dans le jardin, enfin, Voilà. En fait, il y a tout qui se combine. Il y a le mode de vie, il y a la phase de sa vie, les choses dont on a plus ou moins envie. Enfin, j'ai adoré habiter. Enfin, j'ai habité San Francisco, j'ai habité New York, j'ai habité Londres, Boston. Enfin, voilà, j'ai adoré toutes ces phases-là. Mais aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir beaucoup d'espace, de pouvoir m'occuper de mes abeilles. Enfin, voilà. Et donc j'ai quand même eu envie de recréer une structure il y a quelques années parce que alors j'ai pas retravaillé tout de suite, mais quand j'ai retravaillé, j'ai fait du télétravail exclusif. Alors c'est très à la mode maintenant avec le Covid, hein, mais à l'époque c'était moins connu. Mais j'ai pendant une dizaine d'années, j'ai développé des logiciels pour des entreprises qui sont partout dans le monde. La plupart, je les avais jamais rencontrés. De visu, et j'ai compté une fois, enfin j'avais des clients dans 40 pays et j'en avais 3 en France quoi, et 0 en région centre, là où j'habite. Et donc le télétravail, ça peut marcher. Moi ça me convenait bien, je considère que ça s'apprend et que c'est plus compliqué que d'être dans la même pièce, mais ça offre tout un tas d'autres possibilités. Et cette idée d'école, elle me trottait dans la tête depuis un moment parce que j'ai recruté des centaines de développeurs enfin au moins une centaine de développeurs dans ma carrière et que j'étais toujours effaré de voir à quel point les jeunes diplômés ne savaient pas faire grand-chose. Et je me disais que devait y avoir une autre façon d'enseigner qui soit plus pragmatique et plus proche du monde de l'entreprise, enfin culturellement plus proche. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cette idée d'école, et donc j'ai ouvert AlgoSup en septembre. Enfin, on a eu notre promo, ça fait plusieurs années hein, que j'y travaille, et puis on a eu notre première promo en septembre dernier, et là on s'apprête à accueillir la deuxième promo, même si on n'a pas vraiment la notion d'année scolaire, on y reviendra, mais voilà. Donc c'est tout un chemin, enfin il y a une cohérence quelque part, hein. Il y a tout un cheminement, ça a l'air un peu décousu comme ça, mais en fait non, enfin, le fil conducteur c'est le logiciel, enfin, j'ai fait du logiciel toute ma vie, et puis ce qui m'a intéressé dans le logiciel justement c'est de pouvoir basculer d'un domaine à un autre très rapidement, très facilement, et voir des choses extrêmement variées, extrêmement différentes, et je me considère comme un hyper généraliste, où en fait j'ai une culture générale en matière de développement et de technologie qui me permet de rebondir rapidement et de passer d'un sujet à un autre. Et ça, c'est très appréciable quand il y a des ruptures technologiques, puisque par définition, c'est brutal. Et souvent, les changements sont tellement rapides que pour se raccrocher aux branches, il faut avoir des connaissances très larges qui permettent de transposer, de prendre quelque chose qu'on connaît dans un domaine et de l'appliquer à un autre domaine. Donc c'est ça qu'on essaye d'inculquer à nos élèves chez AlgoSup.
Ok, et donc justement, donc on va en reparler de cette école et de comment t'es venue cette idée et quelle est la philosophie parlant de l'école. Mais juste avant, j'aimerais avoir ton avis sur la peur, parce que c'est vrai que là, bon, on a un récap, on va dire, de ton histoire et de toutes les boîtes que tu as montées, de toutes les expériences que tu as eu la chance d'avoir, aussi bien en termes de localisation, tu as fait du télétravail, tout comme tu as bossé à San Francisco ou quasiment partout dans le monde, tu as bossé avec plein de clients, que ce soit des petits, des grands, et tu as eu surtout à faire face à pas mal de changements, voilà, encore une fois, de localisation, de poste, etc., donc de responsabilité. Quelle est ta vision de la peur dans tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu l'habitude, que tu as pris l'habitude d'appréhender à travers les différentes phases d'hypercroissance, comme tu nous parlais juste avant, dans les quelques boîtes dans lesquelles tu as travaillé? Ou est-ce que malgré ces expériences-là, c'est toujours quelque chose, la peur que tu as ressentie? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu l'as gérée durant ces périodes-là?
Alors je ne sais pas si c'est le mot que j'aurais utilisé. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment moi d'avoir peur. J'ai eu fréquemment le sentiment de faire des choses que je savais pas faire, mais c'est comme ça qu'on apprend, enfin au moins en partie. Donc oui, tout change tout le temps, mais finalement c'est une donnée de base. Enfin, je trouve que ce qui est contre-productif, c'est de lutter contre ça ou de s'épuiser à. Alors soit de s'épuiser à essayer d'être tout le temps à jour et de connaître tout sur tout, tout le temps, et de regarder toutes les nouveautés. Ça, en informatique, c'est vraiment de moins en moins possible. Soit à l'inverse, de résister et d'essayer de faire comme si le changement allait pas arriver, alors qu'il y a des changements qui sont inéluctables. Donc non, moi j'ai jamais peur. Alors c'est une part d'inconscience, hein. Je pense que pour être créateur d'entreprise, il faut être en partie inconscient, parce que sinon on ne le fait jamais. Si on analyse de façon rationnelle tout ce qui peut ne pas marcher ou toutes les raisons de faire différemment, ou enfin voilà, je pense qu'il faut une part appelons ça de l'optimisme, hein, mais genre une part de confiance en soi et d'inconscience quelque part qui permet de se lancer. Et puis oui, Algosup, typiquement, c'est infiniment plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Enfin, les aspects techniques sont très simples, mais les aspects administratifs, réglementaires sont extrêmement compliqués. J'avais pas du tout anticipé que ce serait à ce point-là. Donc, maintenant que je sais tout ça, est-ce que je recommencerais? Oui, probablement. Mais voilà, c'est bien de pas tout savoir, et c'est bien des fois de se jeter un peu dans le vide sans savoir à quelle hauteur on est. Enfin, je crois que la peur, c'est aussi un moteur. Enfin, l'adrénaline ou le risque. Enfin, c'est une question d'appréciation du risque. Je trouve que culturellement, en France, on est très risque zéro. On préfère ne pas essayer que de se planter, et ça, c'est très dommageable, et c'est un peu l'opposé de la culture anglo-saxonne. Aux États-Unis, quand on s'est planté plusieurs fois, bah, c'est considéré comme une expérience, et ça a de la valeur. En France, quand on s'est planté, c'est un peu stigmatisant, et on ne va pas forcément nous redonner notre chance. Enfin, donc c'est vraiment culturel, l'appréhension du risque, et je pense que, alors, il ne s'agit pas de foncer tête baissée. Enfin, le risque, ça s'appréhende, ça se mesure, ça se limite, mais c'est important d'essayer des trucs qui sont pas certains de fonctionner, quoi. Sinon, on se bride énormément, quoi. L'important, c'est de comprendre le contexte du risque. C'est-à-dire que si je fais une analogie, enfin, un artiste qui fait un disque, bah, faut surtout qu'il essaye de plein de trucs, et les 25 prises où il chante faux, on les gardera pas au montage. Donc personne n'en aura connaissance, et heureusement qu'il a fait 25 prises où il chante faux pour qu'il y ait une 26e exceptionnelle, quoi. À l'inverse, s'il fait un concert, bah, vaut mieux que ce soit moyen, mais tout le temps constant, quoi. Donc voilà, le risque, il s'appréhende dans un contexte. C'est-à-dire que il faut pas prendre les mêmes risques suivant les circonstances, mais de viser le risque minimum tout le temps, c'est une catastrophe. Enfin, on fait rien, quoi. Enfin, très
Ouais,
clairement, ça
carrément.
marche pas, quoi.
Et c'est hyper intéressant ce que tu me dis par rapport au risque zéro, parce que, alors moi, c'est vrai que j'ai une communauté assez jeune dans le sens où elles ont pas, voire très peu d'expérience professionnelle. Et à chaque fois, on me dit, quand on discute ou quand on me demande des conseils, bah voilà, on m'explique que moi, j'attends pour essayer d'avoir un maximum d'informations, essayer de me former un maximum avant de lancer mon application, de créer ma boîte, je veux encore attendre, attendre, attendre. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis sur le fait que bah, plus on attend, plus on se renseigne, plus on a d'informations et plus on a conscience effectivement des risques que ça peut mener. Et le problème, c'est que l'être humain, il a plus peur de perdre quelque chose que de ne pas gagner ce même quelque chose. Et forcément, si on continue à se renseigner sur un domaine et à constater en fait tous les risques qui sont possibles, on va se concentrer uniquement là-dessus. Donc c'est hyper intéressant ce que tu nous dis et je pense que ça peut servir de petite leçon entre guillemets aux auditeurs pour leur dire bon bah voilà c'est bien de se renseigner, c'est bien de mesurer les risques mais au bout d'un moment il faut arrêter d'aller chercher des informations partout et juste se lancer, ce qui va nous permettre effectivement comme tu disais d'avoir de l'expérience.
Oui, parce qu'on a jamais tous les éléments de réponse. Ce sera toujours partiel, donc il faudra toujours faire des hypothèses et prendre un risque. Et plus on attend, plus on collecte de l'information, et plus on est en décalage avec le marché. Enfin, la logique anglo-saxonne, c'est vraiment de sortir un produit très vite, un produit très imparfait très vite. Et c'est parce qu'on l'a sorti et qu'il y a des utilisateurs et des vrais clients qu'on va apprendre des choses et qu'on va faire une version 2 et une version 3, etc., qui seront meilleures et qui seront viables. Si on attend de faire le produit parfait, enfin, le produit parfait, il sort jamais parce qu'il n'est jamais parfait. Et puis on a un effet tunnel où on est dans sa tour d'ivoire. Faut pas que j'empile trop les métaphores, mais voilà, on est dans sa tour d'ivoire, on avance, on est décorrélé du marché, du contexte. Et finalement, même si sur le papier, ce qu'on était en train de faire, c'est exactement ce que voulaient les clients à un instant T, le temps qu'on le sorte, bah, ils seront passés à autre chose, c'est plus ça dont ils auront besoin. Donc c'est super, super dangereux. Enfin, ça s'apparente à la procrastination, hein, de toujours repousser à plus tard la décision parce qu'on a l'impression de ne pas avoir tous les éléments. Ça fait qu'au final, on ne fait jamais rien. Et dans une entreprise, très clairement, c'est bien plus important de décider que de prendre la décision parfaite. Donc il faut décider rapidement avec des éléments de réponse qui ne sont pas complets, mais ce sera plus efficace que de continuer à chercher de l'information pour essayer de prendre la décision parfaite, qui est de toute façon une illusion, parce qu'entre-temps, le contexte aura évolué et il n'y a rien, enfin, il n'y a rien qui est totalement rédhibitoire et définitif de toute façon. Il y a toujours moyen de rectifier. Moi, quand je prends des. Alors, les gens de mon entourage ont l'impression que je change tout le temps d'avis, et moi, je suis persuadé de ne pas changer tout le temps d'avis, mais j'ai un mode de décision qui s'apparente à tirer des bords, c'est-à-dire que je vais dans un sens et je vois les limites dans ce sens-là, je repars dans l'autre sens, je vois les limites, etc., etc., et je finis par converger vers un point. Donc ces zigzags, ils sont de plus en plus serrés, et à la fin, ça converge vers la meilleure décision, ou en tout cas vers un optimum local. Et moi, je sais fonctionner que comme ça, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre des décisions dans l'absolu, j'ai besoin de prendre des éléments de décision pour pouvoir avancer, et en avançant, de collecter plus d'informations pour pouvoir affiner cette décision. Et superficiellement et vu de loin, ça peut donner l'impression que je passe mon temps à changer d'avis, mais en fait, non, c'est très très construit, enfin, c'est vraiment, ça converge, c'est-à-dire que j'oscille entre plusieurs positions. Mais les oscillations sont de plus en plus petites, et à la fin, ça converge vers un point qui est a priori une bonne décision. Enfin, en tout cas, ça marche pas trop mal jusqu'à maintenant. Mais voilà, je pense que tout ça, c'est très culturel. Et moi, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. J'ai aussi il y a une époque où j'avais des distributeurs dans 18 pays, donc de l'Afrique du Sud à l'Inde, en passant par Israël, etc. Et j'allais les voir une fois par trimestre, donc 18 pays une fois par trimestre, ça faisait pas mal de. Je passais pas mal de temps dans des avions, mais j'étais toujours fasciné de voir les différences culturelles et à quel point. Bah, les stéréotypes en grande partie sont vrais, c'est-à-dire que des gens d'une certaine nationalité, vont être baignés dans une certaine culture et ils vont réagir d'une certaine façon à des tas de situations. Il y a un bouquin fascinant de Erin Meyer qui s'appelle The Culture Map, qui essaye justement de cartographier toutes ces différences culturelles. Elle enseigne à l'INSEAD et enfin, je trouve son. J'ai lu ça récemment, mais ça me renvoyait à des expériences que j'avais vécues. Enfin, je trouve que c'est super intéressant de voir toutes les différences culturelles. Et je pense qu'économiquement, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres parce que la culture de ce pays est plus adaptée à l'environnement. Il faut aussi se rendre compte que souvent la différence culturelle, elle est inversement proportionnelle à la distance. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai vécu longtemps en Angleterre, j'adore les Anglais. Il n'y a que 300 km qui nous séparent, mais enfin entre Paris et Londres, il y a 300 km. Mais culturellement, il y a un fossé immense, quoi. Et donc c'est super important d'en avoir conscience. Et souvent, même quand on le sait, on a du mal à aller contre. Je me souviens de la première fois où j'ai animé une formation en Inde, et on m'avait dit, bah, en Inde, quand ils sont d'accord, ils font un genre de 8 avec la tête, mais pour nous, ça ressemble un peu à un non, enfin voilà. Et je le savais, et plus j'expliquais, plus. Et en fait, pour un Indien, ça veut dire oui, je t'écoute, oui, je comprends, je t'écoute, enfin voilà, c'est une marque d'attention. Et donc, plus j'expliquais, plus il dodelinait de la tête, et plus il dodelinait de la tête, et plus inconsciemment, j'avais l'impression qu'il comprenait pas, et donc plus je réexpliquais, plus je réexpliquais, plus ils étaient d'accord, et donc plus ils bougeaient la tête, et voilà. Et pourtant, je le savais, enfin, on m'avait prévenu. Donc, c'est très compliqué de lutter contre ces stéréotypes et sa propre culture. Et je pense que d'en prendre conscience, c'est déjà, enfin, c'est pour ça que de voyager, c'est hyper important parce que ça permet de prendre du recul. Ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a plein plein de choses qui fonctionnent très bien en France. Et que les gens qui critiquent la France en permanence, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Et d'apprécier les différences culturelles, ça permet de confirmer le fait qu'il n'y a jamais qu'une seule solution et il n'y a pas qu'un modèle. Et on peut avoir quelqu'un qui s'y prend très différemment et qui finalement va y arriver aussi. Et ça, c'est indispensable, enfin, je veux dire, d'être capable. Parce qu'une société qui grossit, à un moment ou un autre, elle est présente dans plusieurs pays. Et si on n'a pas compris qu'il y avait des différences managériales, des différences de rapport au risque, enfin, tout ce dont on a parlé, qui sont majeures d'un pays à l'autre, eh ben, on est incapable de créer une culture d'entreprise qui fonctionne bien partout. Moi, je suis assez fasciné par la culture d'entreprise de Netflix, qui a vraiment une culture de responsabilisation où les gens sont très autonomes et ils ont réussi à avoir des structures dans plein de pays tout en gardant une certaine homogénéité de culture, enfin en appréciant les différences d'un pays à l'autre et en mettant en avant la transparence, c'est-à-dire le fait de se dire les choses et de faire de la critique constructive. Et ça, c'est un vrai défi. Enfin, la mondialisation, elle est avant tout compliquée d'un point de vue managérial, d'un point de vue gestion des équipes. Et je trouve ça, c'est vraiment un. Enfin, nous, on donne des cours de soft skills, on donne des cours là-dessus sur les différences culturelles d'un pays à l'autre, etc. Enfin, parce qu'on prépare nos développeurs à travailler ou à télétravailler partout dans le monde. Mais ça, c'est des choses dont on parle jamais, quoi. Enfin, dans les études classiques, c'est jamais un sujet. Et l'époque où on pouvait passer toute sa vie chez le même employeur, à avoir un seul métier, enfin, dans un seul pays, enfin, c'est complètement révolu. Donc, il faut s'ouvrir au monde et il faut une certaine forme d'humilité face aux autres cultures, parce que quand on a l'impression, je reprends l'exemple de l'Inde, hein, j'adore l'Inde, mais l'Inde, les premières fois on y va, on croit que c'est le chaos, quoi. Vu de notre point de vue, c'est le chaos. Et en fait, non, c'est pas du tout le chaos, ça marche très différemment, mais ça marche. Et c'est probablement le seul mode de fonctionnement qui est possible dans ce contexte-là. Donc, voilà, en Inde, il y a 10% des gens qui parlent anglais, mais il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui parle anglais. Donc, on s'en sort. Voilà, la profusion de main-d'œuvre fait qu'on arrive à des solutions qui sont le contraire des nôtres, puisque nous, on est dans une démarche productiviste de rentabilité, etc. En Inde, la productivité, c'est pas justifié et c'est pas souhaitable parce que vaut mieux quelqu'un qui gagne 100 roupies à faire un petit boulot et qui nourrit sa famille plutôt que d'avoir le moins de salariés possible pour une tâche donnée. Donc voilà, tout est vraiment une question de point de vue et c'est important de ne pas avoir trop de certitudes et de ne pas avoir trop d'idées préconçues, quoi.
Ouais, tout à fait. Et donc c'est hyper intéressant parce que là, effectivement, on parle de plein de choses. On parle de productivité, de différences culturelles. On parle de l'importance d'essayer pour échouer et ensuite pour accumuler de l'expérience. Et en fait, c'est top parce que ça nous mène assez naturellement à la création d'Algosup. Et donc justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette école, de pourquoi elle est née? Parce que voilà, on sent effectivement que avec toute l'expérience que tu as accumulée, il y a eu des problématiques que tu as voulu essayer de résoudre. Et ça nous mène justement à parler de cette école.
Alors, très clairement, Algosup, c'est un aboutissement. C'est-à-dire, bon, je suis pas, enfin, j'ai 51 ans, c'est pas encore vraiment la fin de ma carrière, mais enfin, j'ai quand même beaucoup de recul sur un certain nombre de sujets et j'avais envie d'être plus dans une démarche de transmission et puis d'apporter ma pierre à l'édifice pour essayer de résoudre des problèmes. Le constat de départ, c'est qu'il y a une pénurie de développeurs qui est mondiale et chronique et qui ne fait que s'aggraver, quoi. En gros, depuis 1945, premier ordinateur, les développeurs, donc les gens qui créent les logiciels, doublent tous les 5 ans. Donc si on met ça sur une courbe, bah, c'est vraiment exponentiel, enfin, voilà, c'est spectaculaire. Et malgré tout, il n'y en a jamais assez. Donc c'est un paradoxe. Il n'y en a jamais assez, mais comme ils doublent tous les 5 ans, si on prend le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'informatique, la moitié des développeurs ont moins de 5 ans d'expérience. Et donc, je disais au début que je reprochais au monde des jeux vidéo d'être très immature. Et voilà. Et globalement, l'informatique est une industrie totalement immature, où on réinvente la roue en permanence, souvent de bonne foi, parce que les gens qui réinventent la roue n'ont pas connaissance de ce qui s'est fait, de ce qui s'est fait avant eux. Et à l'inverse, les développeurs expérimentés, ils sont dilués, ils sont noyés dans la masse par l'afflux de nouveaux arrivants. Donc il y a une urgence à mieux enseigner l'informatique, former plus de gens, mais je me rends bien compte qu'à mon échelle, c'est pas en termes de quantité que je pourrais faire de différence, mais peut-être qu'en termes de qualité, je peux amener sur le marché du travail des jeunes ou des moins jeunes qui vont accumuler de l'expérience très vite et qui vont capitaliser sur leur expérience très rapidement. Parce qu'en fait, alors tout bouge tout le temps, mais comme on réinvente la roue en permanence, il y a beaucoup de nouveautés qui ne sont pas des choses intéressantes, qui sont juste une autre façon de faire quelque chose qu'on faisait avant. Et de savoir détecter ça, bah, c'est une compétence ultra importante, parce que si on veut tout apprendre, on s'épuise. Et donc il faut être capable de faire des impasses, de dire, bah voilà, cette techno-là, je ne vais pas l'apprendre parce qu'elle ne me paraît pas importante et je pense que dans 3 ans, elle aura disparu. Et voilà. Donc ça, c'est une compétence qu'on n'acquiert pas au lycée, enfin, ou ailleurs, d'avoir un recul par rapport à sa propre connaissance et la quantité de choses qu'on maîtrise ou pas. Cette envie, bah, d'apprendre tout le temps, enfin, évidemment, si on est curieux de nature et qu'on aime bien apprendre, bah, c'est un domaine de rêve. Donc Algosup, c'est un peu l'école que j'aurais adoré faire quand j'étais étudiant. Moi, j'ai fait une école beaucoup plus classique et ça m'a pas tellement. J'ai sûrement appris des choses, mais ça m'a pas tellement passionné. À côté de ça, je trouve que le monde académique, universitaire est de plus en plus éloigné du monde de l'entreprise, et notamment de l'entreprise mondiale, hein, dont on a parlé. Et nous, on est vraiment parti de la fin. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, aujourd'hui, un développeur qui va travailler chez une licorne, on en a une au coin de la rue de licorne. Une licorne, c'est une boîte de technologie qui en général pas très vieille et qui vaut plus d'un 1,5 milliard de dollars. Et on a la chance d'être à côté de Ledger, qui est le leader mondial de la sécurisation de crypto-monnaies. Pour faire simple, ils font des cartes à puce sur des clés USB. Et voilà. Et donc, bon, alors c'est pas les seuls que je connais dans ce cas-là, mais on s'est vraiment mis dans la tête des entreprises en forte croissance et de leurs besoins de recrutement. Et on a fait la liste de tout ce qu'il fallait savoir en informatique aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que ça tenait difficilement dans 5 ans. Donc on a décidé de faire un bac plus 5. C'est pas l'inverse, c'est pas on tient, on fait un bac plus 5 parce que les boîtes aiment bien les bac plus 5 et puis on verra après ce qu'on met dedans. Non, on a vraiment fait ça parce que c'était à peu près le plus court qu'on pouvait faire pour former des ultra généralistes, pour éviter justement de spécialiser les gens trop tôt, pour éviter de leur fermer des portes. Et puis ils pourront toujours se spécialiser plus tard. Donc, en partant de la fin, une des toutes premières décisions, mais probablement une des meilleures décisions, ça a été de faire tout en anglais. Donc, on s'est dit, l'anglais, c'est la langue de l'informatique, c'est non négociable. Peu importe le niveau à l'entrée, on prend même les grands débutants, mais on fait tout en anglais et ça se passe très bien. Et l'immersion, c'est infiniment plus facile que le saupoudrage, hein. Quand on est au lycée, qu'on est 37 par classe et qu'on fait 2 heures par semaine. Si on se débrouille bien ou mal, à la fin de l'année, on a parlé 10 minutes. Bon, voilà. Nous, on fait beaucoup d'oral et on fait en petits groupes de niveau et on fait de façon intensive et ça se passe très très bien. Donc, l'anglais, c'était un incontournable. On avait décidé, bien avant le Covid, de former les gens au télétravail. On considère que le télétravail, ça s'apprend, que c'est nécessaire, que c'est une corde de plus à leur arc. Et il n'y a que 4% des logiciels qui sont développés en France, donc c'est un peu dommage de faire l'impasse sur les 96% qui restent. Sauf que, bah paradoxalement, pour bien apprendre à télétravailler, il faut être dans la même pièce. Donc nous, tous nos élèves sont sur place, tous nos profs sont sur place. Ça a été compliqué en période Covid, surtout que souvent ils viennent de très loin, mais on a jonglé et ça s'est raisonnablement bien passé. Et donc on apprend dans la même pièce. Pour justement acquérir ses réflexes, maîtriser les bons outils, etc., constater les différences culturelles, tout ce qui fait qu'après, on pourra interagir de façon asynchrone, par mail, en visio, enfin voilà. Tout est plus simple à distance quand on a déjà acquis les codes sur place dans la même pièce. Donc le télétravail, c'était une... Enfin, je crois qu'on est la seule école à enseigner le télétravail. Je trouve ça surprenant, mais voilà, j'en connais pas d'autres. Et puis, les soft skills. Alors, on pourrait dire le télétravail, c'est des soft skills, hein, mais les soft skills, alors j'ai pas vraiment d'équivalent français, j'essaye d'éviter les anglicismes, mais bon, soft skills, c'est les matières transversales ou les compétences douces, ou enfin c'est tout le reste quoi. Donc en première année, on travaille beaucoup sur la confiance en soi, sur apprendre à se connaître, sur oser, hein, on parlait de la peur et de la prise de risque, voilà, c'est nos sujets de première année, ça, même si on n'a pas de notion d'année, mais hein, j'en dirai un mot. Et puis on va faire de la créativité, on fait des choses extrêmement variées. On a fait du secourisme. Est-ce qu'un développeur qui a son brevet de secouriste, c'est un meilleur développeur? Ben oui, parce que si son voisin de bureau a un malaise, il saura comment réagir. Enfin voilà, on a fait de la motion capture avec une cascadeuse. On a même fait de l'orthographe avec des smileys de façon pas du tout scolaire, et ça a décoincé tout le monde, et ça se passe très bien. On fait du théâtre d'improvisation, enfin des choses extrêmement variées. On consacre une journée par semaine aux soft skills. Ça nous paraît essentiel. Les bacheliers qui stressent avec le grand oral, ils n'ont pas compris que la vie était un grand oral, et que dans leur carrière, ils vont devoir parler en public, ils vont devoir convaincre, ils vont devoir expliquer, ils vont devoir enseigner, ils vont devoir faire plein de choses pour lesquelles ils n'ont pas du tout été préparés, quoi. Donc on a à la fin un résultat qui est très différent des autres, pas parce qu'on essaye de se démarquer, mais parce qu'on est parti de l'objectif, et puis on a construit toute une pédagogie autour de ça. On a aussi démarré en plein Covid, donc ça forge le caractère, ça nous a obligé à être encore plus agile. Et notamment, on a développé pendant le premier confinement une application, on a gamifié, on a ludifié l'enseignement. On trouvait que nos élèves étaient un peu loin quand ils étaient confinés, et ça n'a pas duré très très longtemps, hein, mais ils ont été confinés de novembre à janvier, quelque chose comme ça. Et on a développé une application, et c'est comme un jeu vidéo. D'ailleurs, notre outil de sélection est un jeu vidéo. J'ai des restes de mes années Ubisoft, peut-être. L'application permet de voir toute leur progression. On considère qu'à la fin, il faut qu'ils aient acquis 50 compétences. Il y a 12 compétences de soft skills, il y a 7 compétences d'anglais, et le reste, c'est des matières techniques. Et en fait, 50 compétences, c'est 50 000 points, c'est les systèmes de badge. Et donc, quand ils ont leurs 50 000 points, ils ont leur diplôme. Et à l'inverse, on a plusieurs rentrées par an, voire des rentrées en continu, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand ils arrivent, et puis ils finissent quand ils finissent. Et on est sur des rythmes beaucoup plus individualisés, sur des parcours vraiment à la carte. Et on travaille beaucoup sur la motivation intrinsèque. On essaye d'imposer le moins de choses possible, et on demande aux élèves de réfléchir à leur défi dingue. Alors c'est quoi un défi dingue? C'est un projet qui va durer toute leur scolarité, donc 4-5 ans, et qui est très ambitieux. Donc on en a qui construisent des exosquelettes, on en a qui font des casques pour piloter un jeu vidéo par la pensée, on en a qui font des constellations de drones. Enfin voilà, c'est un défi dingue. Et parce que c'est l'idée de l'élève, et parce que c'est son projet personnel, et qu'il n'y a personne d'autre qui fait le même, bah il sera beaucoup plus motivé. Nous, notre rôle, c'est de construire des étapes intermédiaires pour que, à la fin, l'élève ait appris tout ce qu'il devait savoir, et puis qu'il ait travaillé en équipe. Donc on fait des projets par groupe de 5. Donc il va recruter des camarades pour travailler sur des étapes de son défi dingue, et à l'inverse, il va participer à des étapes des défis dingues des autres. À la fin, tout le monde aura travaillé avec tout le monde. Et puis on a des entreprises qui nous commandent des projets. Donc 2-3 jours par semaine sont consacrés à du développement logiciel dans des conditions réelles. Le reste, ben, c'est un peu d'apport théorique, et puis évidemment l'anglais et les soft skills. Donc voilà, on est sur un rythme qui n'est pas du tout scolaire. À partir de l'année prochaine, on n'aura plus de coupure l'été. Donc on enseigne 12 mois sur 12. Les élèves prennent des vacances quand ils veulent. Ils gèrent leur rythme, ils gèrent leur effort. Ils ont l'application de toute façon qui leur permet de savoir exactement où ils en sont et quel parcours il leur reste pour aboutir. Et donc voilà, on a finalement un résultat. Alors c'est compliqué, je disais au début que si j'avais su à quel point c'était compliqué, je sais pas si je l'aurais fait, mais c'est évidemment, on rentre dans aucune case, évidemment, alors on veut quand même être dans le système, on délivre un diplôme à Bac plus 5 qui est reconnu par l'État, donc il faut qu'on se conforme à un certain nombre de choses, il faut qu'on rentre dans certaines cases. On voulait pas complètement être en marge parce que c'est pas, enfin déjà le diplôme pour les Français c'est encore un tabou, enfin on peut pas ne pas délivrer de diplôme même si c'est un domaine où ça devrait pas faire de différence et ce qui compte c'est la compétence, mais bon c'est un autre débat. Donc on est dans une démarche où on essaye, enfin je vais pas dire réformer le système de l'intérieur parce que j'ai pas cette ambition là, mais on essaye de pas se marginaliser, de pas marginaliser nos élèves, tout en se donnant pas de limites sur notre capacité à innover d'un point de vue pédagogique. On s'inspire énormément des neurosciences, donc on va faire de la répétition espacée, on va voir les mêmes sujets 5 fois avec un délai de plus en plus long. Voilà, on essaye, voilà. On est une start-up dans l'enseignement, on teste des trucs, si ça marche, on amplifie, si ça marche pas, on fait différemment, et voilà. Mais mine de rien, dans l'enseignement, c'est pas, ça va pas de soi, quoi. C'est-à-dire que c'est un domaine qui est finalement très très figé, puis très très dans la répétition, enfin dans la transmission du savoir. Donc ça va pour les maths parce que ça évolue pas beaucoup, mais en informatique, ça marche pas de reprendre le même cours tous les ans pendant plusieurs années, ça marche pas, quoi.
Ok. Ouais, tout à fait. Et donc, selon toi, parmi les auditeurs qui nous écoutent, quel serait le profil type, on va dire, alors même s'il n'y a pas de profil type, mais plutôt à qui s'adresserait l'école, si voilà, il y en a qui nous écoutent, qui se reconnaissent un peu dans ton parcours, peut-être, alors en tout cas dans tes envies, dans tes valeurs, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs pour leur confirmer ou non que l'école est faite pour eux ou non, justement.
Alors déjà, des filles, venez. Il y a 8% de femmes dans le numérique. C'est une catastrophe à plein de niveaux. C'est un problème moral, sociétal, enfin voilà. C'est un problème économique parce qu'il y a une pénurie mondiale et on se prive de la moitié des talents, c'est absurde. Mais surtout, les équipes mixtes, ça fonctionne mieux que les équipes pas mixtes. Et que tous les produits du quotidien soient développés exclusivement par des hommes, alors qu'ils sont utilisés autant par des hommes que par des femmes, ben c'est un problème parce que forcément on ne va pas penser à tout, et forcément un produit qui aura été développé par une équipe mixte, alors il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse, de mettre que des femmes, hein, je parle vraiment de parité ou de mixité, ça change tout. Franchement, il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas attirées par ces matières-là. Ou alors que des mauvaises raisons. Alors oui, il n'y a pas beaucoup d'exemples et donc la valeur de l'exemple joue pas beaucoup et c'est difficile de se projeter. On a souvent dégoûté les filles des maths et on leur fait croire que la programmation c'est des maths. Non, la programmation c'est rigoureux, c'est de la logique, c'est symbolique, c'est de l'abstraction, tout ça, mais c'est finalement très différent des maths. Donc on peut ne pas aimer les maths et adorer la programmation. C'est tellement varié qu'on peut faire du sport et du logiciel, on peut faire de la santé et du logiciel, on peut faire de l'écologie et du logiciel, enfin bref. Donc n'importe quel domaine d'intérêt ou de passion peut se combiner avec du logiciel, donc voilà, la palette est extrêmement large. On peut télétravailler, on gagne très bien sa vie, donc on peut décider de moins travailler et gagner autant, ou de plus travailler, enfin voilà, il y a franchement aucune raison objective pour qu'il n'y ait pas plus de filles dans ces domaines-là, donc nous on espérait ouvrir avec la parité, on en est très loin et on rame et on fait plein de démarches d'initiation, d'explication, enfin voilà, démystifier ces métiers-là et tout ça. Donc voilà, s'il y a un message à faire passer, enfin franchement les filles, intéressez-vous à ces sujets-là parce que c'est des métiers d'avenir et c'est des carrières passionnantes. Alors c'est vrai aussi pour les parents, enfin c'est vrai pour tout l'écosystème qui fait que on en est là. Après, s'il faut que vous soyez curieux, il faut que vous aimiez apprendre, vous allez apprendre toute votre vie. Nous, on va vous apprendre des choses, alors dans les soft skills qui se périment pas, mais en technique, des choses qui se périment vite et il faudra vous-même vous remettre à jour, etc. Donc, on va vous apprendre à apprendre, hein. Ça fait partie des choses qu'on enseigne, c'est comment se maintenir à jour et comment aller chercher l'info, comment savoir sur quoi faire des impasses, etc. Donc, faut être curieux. Voilà, on a un petit jeu de test de sélection, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de passer un test de sélection, donc essayez le jeu, c'est facile, hein. L'URL c'est game.algosup.com. Voilà, et finalement, même si vous n'y aviez pas pensé, enfin nous on accueille des gens qui ont des parcours littéraires ou qui ont fait des bacs économiques, ou que voilà, plus c'est varié, mieux c'est, et il n'y a pas, il n'y a pas une seule voie pour arriver à la programmation. Et franchement, ça ouvre des possibilités immenses. Et souvent, c'est par méconnaissance des débouchés ou du métier exact ou des profils qu'il y a dans ce métier que les gens ne sont pas attirés. Donc nous, on fait des coding camps, on fait des phases d'initiation, pardon. On fait des semaines d'immersion. Donc nous, en général, on a une semaine de vacances toutes les 6 semaines. Donc quand les lycéens ont 15 jours, nous on a qu'une semaine, donc on fait venir des lycéens pendant la semaine où nous on travaille et pas eux, et on les met avec nos élèves et ils se mélangent et ils font comme s'ils étaient élèves chez Algosup, gratuitement, etc. Et voilà, donc ils ont une semaine pour savoir si ça leur convient ou pas, et jusqu'à maintenant ils adorent et ils ont hâte de commencer l'année. Enfin voilà, ça convient pas. Évidemment pas à tout le monde, c'est une logique particulière, donc il faut aimer résoudre des problèmes, il faut aimer apprendre, être curieux, chercher, il faut être rigoureux parce que l'ordinateur il n'est pas très tolérant, donc si un coup on écrit un truc avec une virgule, un coup on l'écrit avec un point virgule, bah, on va perdre 2 heures à se demander pourquoi ça marche pas, et c'est juste que sur une ligne c'est une virgule, l'autre c'est un point virgule, enfin voilà, faut être systématique, faut être constant dans sa façon de faire. Si on a à peu près tous ces attributs-là, on est probablement doué pour la programmation sans s'en rendre compte. En tout cas, notre jeu détecte ça, c'est-à-dire notre jeu demande aucun prérequis, mais il détecte des aptitudes et on l'a calibré, on l'a testé sur plein de développeurs. On sait que ça marche. Donc, si vous faites un bon score au jeu, c'est clairement que vous avez des aptitudes à la programmation.
Ok, super. Eh bien, Franck, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je mettrai les liens à la fois de l'école Algosup et du jeu qui permet de savoir si on est fait pour cette école ou pas. Et ce que j'aime bien demander en dernière question à mes invités, c'est est-ce que tu as une ressource qui t'a inspiré et que tu aimerais partager aux auditeurs, que ce soit un livre, un site web, une série, un podcast, une application, bref, peu importe, mais quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs?
Alors j'ai plein de sources d'inspiration, je lis énormément. J'ai parlé tout à l'heure de la culture de Netflix. Les auditeurs peuvent lire ça s'appelle No Rules Rule, donc la règle de pas de règle. C'est un livre coécrit par Erin Meyer, donc qui est prof à l'INSEAD et qui travaille sur ces sujets de différences culturelles, et puis le CEO de Netflix, et c'est très très intéressant sur comment ils en sont arrivés là et vraiment la culture qu'ils ont développé à l'intérieur de Netflix. C'est vraiment la motivation 3.0, quoi, hein. C'est-à-dire que la motivation 1.0, c'est faut trouver de la nourriture, faut pas se faire manger et faut se reproduire. Ça a marché pendant quelques centaines de milliers d'années. La motivation 2.0, c'est le taylorisme. Le travail, c'est pénible et donc il faut contraindre les gens. Hein, c'est la carotte et le bâton. Et puis la motivation 3.0, c'est la motivation intrinsèque. Ça passe par beaucoup d'autonomie, beaucoup de maîtrise et puis du sens, quoi. Donc je trouve que Netflix a réussi à créer cette culture-là. Et c'est impressionnant, et je pense qu'ils sont pionniers et qu'il y a des gens qui vont, il y a des gens qui s'en inspirent et des entreprises qui vont oser aller vers ce modèle-là. Donc ça, c'est un bouquin qui m'a marqué récemment.
Ok, top. Bah, de toute façon, je mettrai encore une fois les liens dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, encore une fois, pour ton retour d'expérience. Et peut-être à bientôt dans un nouvel épisode du podcast, parce qu'il y a encore plein de choses à venir. Hein. On sent que c'est encore le début d'une nouvelle aventure et que tu aurais encore plein de choses à nous raconter.
Et bien, avec grand plaisir. Merci à toi, Quentin.
Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement et à en parler autour de vous. Ça nous aidera à faire grandir le podcast et à inviter toujours plus de profils inspirants. Merci encore pour votre écoute et à bientôt.